Comme le chanvre était plus grossier, vous voyez, avec le chanvre, on faisait aussi les cordes. Vous voyez, tout ça était fait en chanvre. Et derrière vous, vous avez des sacs, et tous les sacs aussi étaient faits.
Je m'appelle Marie-Josée Le Goff,
et, quelque chose de
et je suis donc intervenante au vieux métier depuis un certain nombre d'années. J'ai succédé à ma mère, d'ailleurs.
Alors, depuis quand, justement, vous êtes bénévole?
Je suis bénévole depuis 2017.
Alors, donc, vous l'avez dit, c'était familial. Enfin, j'imagine que vous aviez d'autres motivations quand même.
Oui, oui, mais c'était quand même une motivation importante parce que ma mère avait beaucoup étudié tout ce qui concernait le lin. Elle avait, s'était procuré beaucoup de choses au niveau de l'université même. Et ça m'a toujours passionnée aussi, ce qu'elle racontait.
Et donc, elle vous a c'est elle qui vous a transmis tout le savoir.
Elle m'a transmis une partie du savoir. Puis moi, je me suis également, bien sûr, formée à toute cette science, entre guillemets, du lin et du chanvre.
Comment vous avez fait, sinon, alors ?
Eh bien, pareil qu'elle, j'ai beaucoup lu, étudié. On a établi ici une bibliographie, d'ailleurs, au vieux métier, pour tous les gens qui sont intéressés et qui peuvent donc se la procurer.
Donc vous êtes une bénévole vraiment spécialisée ? C'est-à-dire qu'il y a des bénévoles qui font plusieurs ateliers, vous ne faites que le lin ?
Je fais le lin, mais je fais également, par exemple, tout ce qui concerne la vie à l'ancienne. Comme ici, vous avez la vieille épicerie du village, vous avez le vieux penty, et puis aussi en ce qui concerne les costumes et les tissus, et tous les textiles de manière générale.
Finalement, dans ce musée, on ne peut pas se contenter d'un seul atelier.
Non, exactement.
Sinon,
un peu polyvalent.
Et sinon, sur la vie en général de l'association, qu'est-ce que vous diriez ?
Ah, je trouve que c'est formidable parce que pour tous les retraités, et c'est mon cas, c'est une occasion formidable de rencontrer du monde de partout. On a énormément d'étrangers. Hein. On a beaucoup d'Allemands en particulier, de Hollandais. On a le marché des croisiéristes américains aussi. Donc, c'est vraiment l'occasion de parler, de rencontrer du monde. C'est formidable. Quand on est en retraite, on n'a même plus besoin de se déplacer, vous voyez.
Et vous voyagez, en fait, quand vous êtes au musée, quoi.
Ouais. Tout à fait. C'est ouais.
Et après, sinon, entre vous, l'ambiance est bonne, enfin, entre bénévoles.
Oui, excellente. Hein. Oui, l'ambiance est excellente. Entre nous, on a toujours beaucoup de plaisir, même à venir pendant l'hiver, parce que pendant l'hiver, il faut entretenir les machines. Enfin, il y a un tas de travail. On a toujours beaucoup de plaisir à se rencontrer pendant l'hiver et à prendre notre café crêpe traditionnel.
On va voir maintenant comment on passait de la graine de lin ou de la graine de chanvre, comment on passait de la graine aux vêtements. Parce que tout cela se faisait à la ferme. Vous voyez, donc c'était quelque chose de très local. Est-ce que vous connaissez tous la graine de lin ? Peut-être vous l'avez vu sur le pain. Donc, et vous avez ici la graine de chanvre, qui ressemble beaucoup aux lentilles de la cantine. Hein, vous voyez ? Ces graines, on les semait à cette période-ci de l'année, entre la mi-mars et la mi-avril. Et il fallait attendre le mois de juin pour apercevoir la jolie fleur bleue du lin. Est-ce que vous avez du lin en Espagne ? Oui, oui. C'est très très joli, les champs de lin bleu. Hein. Et le chanvre, c'est la petite fleur blanche.
Et aussi en Espagne.
Voilà, ça aussi en Espagne. Oui. Par contre, pour avoir sa chemise, c'était un très très long travail. Il fallait attendre une année entière pour avoir sa chemise à partir de la date où on semait la graine. C'était très long et très pénible. Et le travail commençait au mois de juillet. Et au mois de juillet, toute la famille allait au champ parce qu'il fallait arracher toutes ces tiges à la main. Vous voyez ? Et c'était la même chose pour le chanvre. Et le chanvre peut descendre très profondément sous terre. Alors c'était un gros effort. Une fois que tout avait été arraché, toutes les tiges venaient à la ferme sur des charrettes tirées par les chevaux. Et la première opération consistait à égrener. Alors vous voyez ici toutes ces graines, toutes ces capsules. Dans les capsules, il y a cette graine, vous voyez ? Alors, on n'avait pas de machine pour enlever toutes les graines, mais on avait cet instrument qu'on appelle un égrenoir qui était placé sur un banc. Et vous avez ici l'image, justement, des hommes qui travaillaient sur le banc. Il y avait un homme assis ici, un homme là, les femmes et les enfants leur passaient les gerbes, on les frappait sur cet égrenoir et il fallait tirer, tirer, jusqu'à ce que les graines tombent dans un drap. Alors, une fois qu'on avait récolté les graines, on obtenait de l'huile de lin. Et l'huile de lin, c'était un bien très, très précieux dans tous les pays où il y avait une marine à voile. Parce qu'on a vu que les voiles étaient faites en chanvre. Alors, les voiles de chanvre, c'était quelque chose de très, très lourd. Et lorsque les voiles étaient pleines d'eau de mer ou d'eau de pluie, le bateau ne pouvait plus avancer sur l'eau. Vous voyez, c'était beaucoup trop lourd. Alors, avant de quitter le port, tous les marins enduisaient leurs voiles d'huile de lin. C'est pour ça que c'était un bien précieux. L'huile de lin, vous voyez, on l'utilisait pour imperméabiliser les voiles. Nous en sommes au stade où nous nous sommes donc débarrassés de toutes les graines. Il n'y a plus du tout de graines. Par contre, il reste les tiges, la tige de lin comme la tige de chanvre. Et c'est à partir de ça maintenant, au mois de juillet, qu'il va falloir faire les vêtements. Alors, comment va-t-on faire pour faire un vêtement avec ça? Eh bien, tout simplement, au mois de juillet, la première chose qu'on faisait, c'était de mettre toutes ces tiges dans une mare. Dans toutes les fermes, vous aviez une mare qu'on appelait la mare à rouir, parce que cette opération s'appelle et s'appelait et s'appelle toujours d'ailleurs le rouissage. Alors pourquoi faisait-on ça? Si vous prenez la tige du chanvre par exemple, vous voyez qu'il y a le bois là et il y a ceci, des petites lanières. Et ces lanières, c'est ça le fil, vous voyez? Vous voyez donc que le fil n'est pas dans la tige, il est tout autour de la tige, vous voyez? Et c'est la même chose pour la petite tige de lin en beaucoup plus fin. Vous voyez que le fil est aussi tout autour de la tige. Oui. Alors, ces deux éléments que vous voyez, donc le bois et le fil, sont liés par une sorte de colle qu'on appelle la pectase. Et la pectase, elle se dilue dans l'eau. Vous voyez? Et quand la pectase se dilue dans l'eau, ça permet un accès plus facile au fil. Le teillage, ça consiste à briser la fibre, le bois, si vous voulez, du lin ou du chanvre pour avoir accès au fil. Alors, c'est un travail qui demande beaucoup d'énergie parce qu'il faut frapper, vous voyez? Et à force de frapper, le bois se casse et le fil apparaît.
Et le cardage, donc, vous disiez, c'est...
Le cardage, c'est le peignage, en fait, hein, et ça permet donc d'obtenir un fil beaucoup plus fin en le passant par les peignes. C'est un peu comme lorsqu'un humain se peigne, vous voyez, on obtient des cheveux tout fins. On peut parler de cheveux de lin. C'est le rouet. Alors, le rouet, ça sert à filer, c'est l'instrument de la fileuse. Ça sert à faire du beau fil et à faire donc des bobines de fil surtout.
Oui, parce qu'au départ, avant le fil, enfin, il y a quand même une sorte de fil au départ. Oui. Mais bon, il est moins bien.
Il y a un fil que la fileuse a fait elle-même en prenant un brin de lin qu'elle a dissocié comme ceci. Vous voyez, elle dissocie son brin de lin et elle met les deux bout à bout. Comme ceci. Elle met ensuite un petit peu d'eau pour faire tenir le tout. Et une fois qu'elle a réussi cela, elle s'approche du rouet et elle met donc le fil nouvellement constitué.
Elle l'entortille
au fil précédent de la bobine. Elle met encore un petit peu d'eau et puis elle tourne son rouet. Voilà. Et les bobines se font automatiquement. Et
quand il est en bobine, après, il est prêt à tisser, c'est ça, hein?
Voilà, c'est ça. Alors, par contre, les tisserands n'appréciaient pas beaucoup ces petites bobines de rouet. Et ils voulaient des bobines, en fait, de cet acabit. Vous voyez, c'est beaucoup, beaucoup plus grand. Et là, les fileuses devaient passer par l'intermédiaire de l'écheveau. Vous voyez, il y a ici une machine à faire, un écheveau. Et sur cet écheveau, elles mettaient leur fil... Le fil du rouet, le fil issu du rouet. Elle mettait encore un petit peu d'eau pour que ça tienne. Elle tournait les chevaux ici. Et une fois les chevaux constitués, on le mettait sur cette nouvelle machine ici qui est très ancienne, hein, c'est des années 1800. On mettait donc ici les chevaux, et puis il suffisait de tourner la manivelle pour obtenir ces grandes bobines que recherchaient les tisserands.
Les machines que vous avez là, ben vous en avez beaucoup, hein. Elles datent en gros de quelle époque ?
Le 18e. Ce métier à tisser date de 1750. On l'a trouvé dans une ferme à Argol. Il était complètement en différents morceaux et on l'a reconstitué. Donc ce sont les artisans des vieux métiers qui l'ont reconstitué.
Alors c'était plus tout à fait l'âge d'or du lin, le 18e. Enfin c'était quand même encore une époque où ça allait, quoi.
Oui, oui, ça allait à peu près, mais ce n'était certainement pas, comme vous le dites, l'âge d'or du lin qui remonte plutôt au 16e, 17e, hein, lorsqu'on exportait vers l'Espagne.
J'ai les craies qui ont été reconstituées aussi par les artisans des vieux métiers.
Ces gros tampons, vous avez le tampon de Locronan et celui de Morlaix qu'on apposait sur les ballots qui partaient pour l'Espagne quand les contrôleurs des fameux Jules Audette, les marchands de toile bretons, considéraient que le travail était satisfaisant. Voilà. Et ici, ce qui est intéressant, c'est que sur celle de Morlaix, vous avez même l'inscription en espagnol de « Creas Nuevas », toile neuve. Vous voyez, Creas, c'était les craies du Léon qui étaient réputées pour leur blancheur inimitable.
Et donc, c'est écrit en espagnol. Hein.
C'est écrit en espagnol.
Et c'est marrant parce que là, vous aviez un public espagnol.
Oui, c'est ça. En plus, ils venaient d'Andalousie parce que nos toiles partaient à Cadiz, où il y a d'ailleurs une rue des Bretons au port, et du petit port de Sanlúcar de Barrameda. Toutes nos toiles partaient vers l'Amérique latine, vous voyez, et c'est ce qui a engendré toute cette richesse en Bretagne que l'on voit au niveau des chapelles, des églises, mais aussi de l'architecture civile, hein, de villes comme Quimper, Landerneau, Morlaix, Quintin, enfin il y en a toute une liste.